Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Je n'ai jamais cru au diagnostic posé sur mon fils. Quand une pathologie se voit attribuer trois noms différents en autant de décennies, quand elle exige deux sous-catégories pour rendre compte de symptômes absolument contradictoires, quand en l'espace d'une génération elle passe de l'inexistence au statut de maladie infantile la plus diagnostiquée du pays, quand deux médecins veulent à eux seuls prescrire trois traitements différents, c'est qu'il y a un problème. Richard Powers est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son dernier livre traduit en français qui s'intitule « Sidération au pluriel ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Bruce Springsteen, « Born in the USA ».
Dog has been beat too much till you spend half your life.
Richard, pouvez-vous me décrire ce que vous voyez le matin quand vous vous réveillez dans votre maison des Smoky Mountains?
I actually sleep and work outside on the deck of my house.
En fait, je dors et je travaille dehors, sur la terrasse de ma maison. Elle est entourée de forêts et il y a un profond ravin au pied de ma maison. Et en fait, les forêts que je regarde sont en continuité avec le plus grand parc national terrestre de l'Est des États-Unis. Il mesure 200 000 hectares de nature sauvage. Et il est considéré comme la zone la plus biodiversifiée du monde de cette taille, en dehors des tropiques. Je peux voir n'importe quoi selon la saison, selon le temps. Je peux être réveillé à 2 heures du matin par un hibou ou un engoulevent, des oiseaux qui chantent toute la nuit. Il m'est souvent arrivé, alors que je travaillais sous le porche, qu'un ours vienne se coller contre la moustiquaire. Il y a même eu un ours qui a traversé cette moustiquaire un jour parce qu'il était très curieux de ce qui se passait dans ma maison. Je vois ici plus d'espaces d'arbres dans mon jardin que dans toute l'Europe, du Portugal aux États baltes. C'est un endroit très favorisé où vivre. Et chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau sur ce que cette partie du monde veut faire, ce qu'elle est capable de faire, tous les immenses réseaux interconnectés de la vie, juste devant ma porte.
Vous aviez publié votre avant-dernier livre avec un très grand succès qui s'intitulait « L'arbre monde » et je crois que pour ce livre, vous avez commencé à vous intéresser aux arbres. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de quitter la ville pour vous installer justement au milieu de ces Smoky Mountains? Est-ce que c'est l'étude sur les arbres que vous avez menée pour ce livre?
That's true.
Oui. J'ai eu mon moment d'éveil aux arbres quand j'enseignais à l'université de Stanford en Caroline du Nord, au-dessus de la Silicon Valley. Dans les montagnes de Santa Cruz se trouvent des forêts de séquoia, dont beaucoup se remettent d'avoir été abattus il y a 100 ans. Mais ici et là, il y a des poches d'énormes séquoias. Et c'est en voyant l'un de ces énormes arbres que j'ai une sorte de conversion religieuse et que je suis devenu obsédé par les arbres. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais sur les arbres et j'ai commencé à écrire l'arbre monde. J'ai lu partout que si quelqu'un voulait voir à quoi ressemblait une forêt primaire de feuillus de l'Est, le meilleur endroit où aller était les Smoky Mountains. J'ai été choqué, en fait, de découvrir à quel point il reste peu de forêts primaires dans le pays. Il ne reste peut-être que 5% des forêts originelles d'Amérique du Nord, à l'état brut. Et la plupart des forêts de feuillus à feuilles caduques de l'Est qui subsistent se trouvent dans les Smoky Mountains. Et je me suis dit que j'écrivais ce livre, que j'allais parler de la forêt primaire et que je devais la voir. Et j'ai fait un voyage d'étude de 3 jours dans le sud des Appalaches, là où se trouvent les Smokies. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis de la côte Est. Je pensais savoir à quoi ressemblaient les forêts de l'Est. Mais lorsque j'ai quitté les forêts en voie de régénération des Appalaches du Sud, et que j'ai franchi la limite de la forêt primaire, c'était presque comme ce moment dans Le Magicien de Oz où le film passe du noir et blanc à la couleur. Le son était différent, l'odeur était différente, la lumière était différente. Et il était clair qu'il y avait une énorme augmentation du nombre d'espèces. Et c'était très émouvant pour moi. Je me suis dit que c'était à ça que ressemblait la forêt il y a 10 000 ans. C'est mon patrimoine. Tout l'Est des États-Unis ressemblait autrefois à cela. Mais maintenant, il faut venir à cet endroit précis pour le voir. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais vu une forêt primaire saine auparavant. C'était la première forêt entièrement fonctionnelle et saine de mon pays sur laquelle j'avais posé les yeux. Après ce voyage d'études, je pensais encore à cette expérience 8 mois plus tard. Et je me suis dit que ça voulait me dire quelque chose. J'y suis retourné, j'ai acheté une maison et j'y vis depuis 5 ans. C'est donc le livre qui m'a fait déménager et j'en suis profondément reconnaissant car il a changé ma façon d'écrire. Il a changé ce sur quoi j'écris. Il a changé la façon dont je vis mes journées.
Nous allons écouter la voix d'un grand amoureux et un grand spécialiste des arbres en France qui s'appelle Francis Allais.
Eh bien, écoutez, je regrette de constater que dans le monde actuel, quand on parle des arbres, on y voit des êtres humains. Si vous regardez une BD, par exemple, l'arbre, il a un nez, il a des yeux, et bon, tout ça, c'est dommage. Parce que ça veut dire qu'on n'a rien compris. Cocteau, puisque ce mystère nous dépasse, feignons d'en être les organisateurs. C'est ce qu'on fait. Non, alors si on veut comprendre les arbres, il faut arrêter de les prendre pour des êtres humains. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je m'attache à cette altérité.
Êtes-vous devenu un arbre ?
Mais non, justement pas. Sinon, il n'y aurait pas d'altérité.
Est-ce que vous pensez, vous aussi, Richard, comme Francis Allais, que les arbres pensent, que les arbres sont nos alliés, que les arbres sont nos compagnons et que nous avons besoin des arbres ? Plus que les arbres n'ont besoin de nous, nous qui sommes peut-être les ennemis des arbres.
I am in complete agreement with that.
Je suis tout à fait d'accord avec cela.
There is a prohibition against anthropomorphizing in science.
Il est interdit d'anthropomorphiser en science. Un scientifique n'est pas censé voir des équivalents humains dans le monde autre qu'humain. Dans le monde non humain. Et pourtant, cette interdiction nous a empêchés, dans certains cas, de comprendre à quel point le comportement des arbres est riche, complexe et similaire à notre propre comportement. La nouvelle sylviculture, la révolution dans notre compréhension de ce qui se passe dans les forêts au cours des 20 ou 30 dernières années, nous a ouvert les yeux sur la complexité, non seulement du comportement des arbres individuels, mais aussi de la façon dont les arbres forment des communautés. Ils sont liés dans des réseaux de coopération très étroits. Ils ont de la mémoire. Ils domestiquent les insectes. Ils se maintiennent en vie grâce au partage des ressources. C'est absolument remarquable et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait encore beaucoup d'autres découvertes à faire sur le comportement complexe des arbres. Et ces découvertes nous forcent à réaliser que peut-être des choses que nous pensions être le propre exclusif des êtres humains ou de créatures comme les êtres humains, sont en fait beaucoup plus largement partagées à travers le royaume du vivant.
Votre précédent livre, L'Arbre-Monde, organisé en 8 chapitres, avec avec des personnes issues du monde entier, tisse finalement une sorte de solidarité entre les êtres qui comprennent les arbres. Et ils comprennent à ce point les arbres que pour pouvoir les défendre, ils vont être contraints de pratiquer ce qu'on appelle l'écoterrorisme. L'écoterrorisme, c'est faire des manifestations contre la déforestation. Donc vous êtes un écrivain qui, au cours des décennies, puisque ça fait très longtemps maintenant que vous écrivez, Richard Powers, vous posez des questions politiques et philosophiques. Est-ce que la violence peut être mise au service d'une cause non violente, comme l'éco-terrorisme, par exemple ?
C'est une question profonde et complexe, et j'ai des sentiments complexes à ce sujet. Il n'est pas facile de répondre de façon définitive sur ce que je pense des actions qui pourraient être justifiées pour défendre le monde autre qu'humain. Mais je dirais ceci. Il est extrêmement difficile, voire impossible, pour un écosystème complexe de retrouver sa pleine complexité une fois qu'il a disparu. En fait, j'ai lu des scientifiques, des botanistes, des dendrologues dire qu'aucun être humain ayant jamais vécu n'a vu une forêt primaire ancienne revenir après avoir été abattu. Si cela se produit, c'est sur une période plus longue que celle que nous avons pu connaître jusqu'à présent. À cet égard, chaque fois qu'un biome est détruit, nous perdons tous une partie de notre patrimoine et une partie de nous-mêmes. Parce que lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas des créatures séparées, autonomes, exceptionnelles, lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas maîtres et dominateurs du monde non humain, lorsque nous réalisons que nous sommes qu'un voisin parmi tant d'autres, et lorsque nous réalisons que toutes ces autres formes de vie rendent notre forme de vie possible, alors une attaque contre ces formes de vie est aussi une attaque contre nous. Dans le roman, cette volonté d'utiliser la violence pour protéger un patrimoine irremplaçable est justifiée par une sorte d'autodéfense. Aux États-Unis, si quelqu'un s'introduit chez vous, vous êtes autorisé à user de la violence pour protéger votre maison. Les personnages du livre utilisent cet argument. Ils disent simplement « quelqu'un s'introduit dans notre maison ». Nous sommes en train de perdre notre bien-être. Nous devons prendre position. Et peut-être que c'est extrême. Ils ont peut-être franchi une limite à laquelle la plupart des gens ne seraient pas sensibles. Mais dans ce livre, je voulais rendre leur désespoir et leurs arguments au moins compréhensibles pour un grand nombre de personnes.
Nous allons écouter la voix de quelqu'un qui vous est proche et qui nous est très important pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'écologie, de ce qu'on nomme l'écologie, mais surtout de la protection de la nature. Je veux parler de Bruno Latour qui parle de Gaïa comme la Terre.
C'est-à-dire que pour la première fois, on a un vrai conflit qui est un conflit sur la nature. Avant, on avait des conflits d'idéologie, on avait des conflits d'intérêts économiques, et qu'ils ont toujours été en désaccord. Mais là, ce qui est stupéfiant, c'est que les Américains, tout se passe comme si les Américains disaient « ce qui vous arrive à vous, ne nous arrive pas à nous ». Et donc, on a une rupture géopolitique, et c'est la distance, l'importance de cette rupture géopolitique, et il faut la prendre en compte, parce que elle va organiser toute la politique dans les années qui viennent. Donc là, enfin, on s'aperçoit que la question climatique est la grande question géopolitique. C'est l'objet du livre. On n'avait jamais vraiment un monde partagé avant, mais enfin, ceux qui nous menaient vers la modernisation à outrance supposaient qu'il existait. On s'aperçoit maintenant qu'il est totalement utopique, puisque on ne sait pas la température de ce monde-là, on ne sait pas combien on va être. Et donc, il y a une espèce d'inversion, c'est tout à fait passionnant.
Je pense, Richard Powers, que vous êtes proche de Bruno Latour. On est dans un monde, et on le voit hélas tout le temps, où les gouvernants savent qu'il faut protéger notre planète, mais où ils ne le font pas vraiment. Comment voyez-vous l'avenir de notre devenir monde ?
It's true, I have one of the luckiest aspects of my life.
L'un des aspects les plus heureux de ma vie est une amitié durable avec Bruno Latour, qui dure maintenant depuis plus d'un quart de siècle. Nous nous sommes d'abord liés d'amitié à propos de livres que nous avions écrits, qui étaient remarquablement similaires. J'essayais de faire, par le biais de la dramatisation, de la narration, quelque chose de très semblable à ce que Latour faisait par le biais de l'argumentation et de la philosophie. Et nous sommes devenus amis il y a un quart de siècle. Nous avons collaboré à distance et en personne à de nombreuses reprises. Et je crois que mes deux derniers romans, en particulier L'Arbre-Monde, et Sidération, sont profondément influencés par l'engagement de Latour envers Gaïa et par une tentative de réévaluation de la conscience humaine, la recherche d'une nouvelle façon de penser la manière d'être humain dans ce monde, qui est aussi une très vieille façon de penser et qui a de nombreuses ressemblances avec la pensée indigène sur la place de l'humanité dans un monde plus qu'humain. Ce livre tente de mettre en scène une grande partie de la philosophie récente de Latour. En particulier, il pose précisément la question que vous vous avez posée. Quelle est la forme de pensée humaine que nous allons devoir développer pour survivre à l'avenir? En résumé, nous vivons dans une culture qui nous a si complètement colonisés que nous ne nous rendons même plus compte à quel point nous avons assimilé ces principes. Nous les considérons en quelque sorte comme allant de soi. L'exceptionnalisme humain, on en a déjà parlé. L'idée que le sens est personnel, que chaque individu crée son propre sens pour et par lui-même. L'idée que le but de la vie est en quelque sorte médié par l'accumulation, par les marchandises. Tous ces éléments appartiennent au monde que Latour appelle le modernisme. Nous devons transformer notre conscience de la conscience du modernisme en ce nouvel ancien état que l'on pourrait appeler une sorte de nouvel indigénat. Latour parle d'atterrir à nouveau sur la Terre. Et ce livre est très lié à l'idée de rappeler l'urgence du lieu, de vivre là où nous vivons, de vivre non pas comme un élément exceptionnel d'une communauté, mais comme une espèce parmi d'autres, de voir dans un monde de connexion une sorte de but que notre culture actuelle ne nous donne pas. Je crois que pour arriver à ce monde, nous passerons nécessairement par une période prévue de souffrance, d'épreuves et beaucoup de morts. Mais je crois aussi que si nous y parvenons, le monde vivant nous attendra de l'autre côté. Il sera peut-être fortement diminué, mais nous, les humains, pouvons jouer un nouveau rôle dans ce monde. Un rôle qui nous amène à nous penser très différemment. Mais un rôle qui nous fait penser aussi différemment au lieu. Si le monde vivant est toujours là, si nous en faisons toujours partie, si nous sommes capables de réhabiliter le monde, si nous sommes capables de réenchanter et de réanimer notre propre rôle dans ce monde, alors, nous avons du travail sans fin pour l'avenir, un travail sans fin et significatif. Et je crois que c'est le programme vers lequel tente également la philosophie de Latour.
Vos livres sont extraordinaires, Richard Powers, parce qu'ils développent un monde entre le scientifique, le biologique, la science-fiction, le pressentiment de l'avenir, et ils sont à chaque fois des fables et des méditations aussi de notre espèce humaine. C'est le pouvoir de la fiction. Vous êtes scientifique d'origine. Ça a été vos études. Vous avez été un scientifique très, très, très fort. Et puis, vous êtes passé au statut d'écrivain. Est-ce que vous avez l'impression que l'écriture par la fiction, parce que ce que vous nous racontez, y compris dans le dernier livre, Sidération, c'est presque vrai. Ça pourrait être vrai. Ce n'est pas encore vrai. Mais c'est le pouvoir de la fiction. Comment vous définiriez votre rôle d'écrivain ? C'est celui d'un lanceur d'alerte ou c'est celui de quelqu'un qui doit nous faire réfléchir au proche avenir ?
Permettez-moi de commencer en disant que Latour lui-même a souvent exprimé son envie du pouvoir des auteurs de fiction de faire quelque chose que les universitaires, les ethnographes, les sociologues, les philosophes ne peuvent pas faire aussi facilement. Une grande partie de sa philosophie consiste à voir comment ce que nous appelons humain fait en fait partie d'un très vaste réseau qui relie l'humain au non-humain, à la fois aux machines, aux créatures vivantes, afin d'incarner ce réseau et d'y participer. La fiction peut créer des formes qui sont beaucoup plus proches des réseaux, alors que l'écriture académique, discursive ou essayiste, ne peut pas y participer réellement. La Tour aime cette idée d'avoir de multiples perspectives qui changent, parlent et interagissent les unes avec les autres. La fiction est une négociation sans fin. C'est une toile sans fin. Ce que La Tour appelle la théorie du réseau d'acteurs est en fait incarné dans la manière dont un roman est façonné par de multiples personnages qui se font de multiples choses et changent la manière dont ils se perçoivent. Il y a un autre pouvoir de la fiction qui m'attire. Et c'est probablement la raison pour laquelle je suis devenu écrivain de fiction plutôt que scientifique. Je l'exprimais très simplement dans mon précédent roman. Tous les meilleurs arguments du monde ne feront pas changer d'avis une personne. La seule chose qui le fera, c'est un bon récit. Nous pouvons voir des graphiques, des statistiques, nous pouvons entendre des arguments, nous pouvons suivre l'analyse rationnelle, et pourtant, ne pas bouger, ne pas changer, ne pas reconsidérer nos propres croyances et nos propres comportements. Toutefois, lorsque vous vous lancez dans la lecture d'un roman, c'est comme c'est le cas avec ce livre, si vous vous dites, eh bien, comment répondrais-je à ce garçon de 9 ans en colère et effrayé? Comment m'occuperais-je de lui en tant que parent? Ou, à l'inverse, pourquoi ce parent ne voit-il pas les choses comme moi? Qui devrais-je être pour avoir de la sympathie pour sa forme d'éducation? Toutes ces choses que nous faisons, ces sauts dans l'empathie que nous faisons lorsque nous lisons un roman, lorsque nous sommes émus, mus par un personnage, nous sommes nous-mêmes émus, mus, et ce n'est pas que ce sentiment profond, ce saut empathique avec d'autres perspectives, avec des façons de voir le monde qui ne sont pas les nôtres, qui nous permettent de repenser nos engagements. Ce n'est pas par hasard que le mot que nous utilisons pour signifier émotionnellement engagé, je suis ému par ce personnage, est aussi le mot que nous utilisons lorsque nous parlons de changer notre propre perspective et notre propre position.
Alors, puisque vous parlez de votre premier livre, Richard Powers, qui était parti, je crois, de l'observation d'un tableau de 3 paysans qui allaient au bal, je voudrais parler de votre deuxième roman, qui je crois était autobiographique, qui s'intitule dans sa traduction française « Le dilemme du prisonnier » et qui parle de votre père. Est-ce que votre père passait son temps à faire des théories, à vous raconter des histoires? Je sais aussi que vous avez passé toute votre enfance et votre adolescence en Thaïlande. Ça a dû aussi profondément construire votre personnalité. Est-ce que cet ailleurs exotique quand vous étiez jeune et le fait que votre père était manifestement maître des énigmes a influencé plus tard votre désir d'être écrivain?
Sans aucun doute, mon père m'a façonné de tant de façons que je le découvre encore ici à l'âge de 64 ans. J'ai maintenant 12 ans de plus que lui quand il est mort et je n'arrive pas à m'y faire. Oui, il est mort à l'âge de 52 ans. C'était un éducateur, il était directeur d'école. Il a été la première personne de sa famille à aller à l'université et il accordait une très grande importance à l'éducation. Et c'était une partie essentielle de la façon dont nous, les enfants, nous nous sommes perçus en grandissant. C'était un homme enjoué. C'était un homme troublé. C'était un homme qui pensait. Mais c'était aussi un homme profondément sensible. Il était absolument complexe d'une manière dont je ne pense pas pouvoir jamais lui rendre justice. Mais ne fait aucun doute qu'il aurait préféré que je sois un scientifique. Il rêvait lui-même d'être un scientifique. Il n'avait pas assez de compétences en mathématiques. Et donc, lorsque son fils a fait preuve de cette compétence, je pense qu'il rêvait de vivre par procuration à travers moi, de me voir entrer dans ce domaine de la connaissance auquel il n'avait pas pu accéder lui-même. Je ne sais pas si je l'ai déçu en devenant écrivain ou s'il est mort trop tôt pour voir mes succès en tant qu'écrivain, mais je pense qu'il a respecté mon choix et qu'il était particulièrement heureux que j'ai choisi de raconter des histoires sur d'autres façons de savoir, que mes romans deviennent finalement des moyens d'explorer toutes les questions que mon père m'avait posées pendant mon enfance.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez Le Choix Musical. C'est moi qui l'ai choisi, vous me direz ensuite si j'ai eu tort, de Richard Powers. J'ai choisi pour vous les variations Goldberg interprétées par Glenn Gould. Ça vous plaît?
Très bien. Quelle variation allez-vous jouer?
Celle que vous voulez, choisissez.
How about, number 18?
Pourquoi pas la numéro 18?
Okay. Je vous comprends, on écoute la 18e. Si j'ai choisi les variations Goldberg pour vous, Richard Powers, c'est parce que vous aviez écrit un livre qui s'appelait Goldberg Variations. Mais c'est aussi parce que vous avez tous les talents. Non seulement vous êtes un grand scientifique, non seulement vous êtes quelqu'un qui est une sorte de sourcier de l'avenir, mais en plus, vous êtes musicien. Vous savez jouer du violoncelle.
Oui.
Vous êtes chef d'orchestre un peu. Aussi. Vous savez tout faire, quoi, dans la vie. Vous avez tous les dons, quoi.
En fait,
je ne joue pas très bien d'un instrument. Je joue beaucoup d'instruments, mais à un niveau de compétence assez faible. Mais quand j'étais jeune, je rêvais de devenir musicien. Je savais que je ne serais jamais assez bon pour le faire, mais vous voyez, c'est aussi l'une des beautés de l'écriture, tout comme ce dont j'ai parlé plus tôt, de la façon dont, en tant qu'auteur, j'ai pu vivre par procuration les divers domaines et disciplines scientifiques que je n'ai pas choisis moi-même. J'ai donc pu, au cours de ma vie, consacrer plusieurs de mes livres à la passion que j'ai pour la musique. Les variations Goldberg étaient le premier, mais je le refais dans Le temps où nous chantions et dans Orfeo. Et à chaque fois, c'était une manière de me faire plaisir. C'était une façon de passer plusieurs années à écrire un livre et à créer l'illusion d'être un musicien, de vivre dans le monde de la musique. Et bien sûr, la plus grande satisfaction, c'est que pour ces trois livres, j'ai pu passer une grande partie de ma journée à simplement écouter. C'était pas de la paresse. C'était évidemment pas l'évitement de l'écriture, c'était de la recherche. Alors lorsque j'ai écrit les variations Goldberg, je passais 2 ou 3 heures par jour juste à écouter Bach, à n'écouter que cet immense catalogue de variations. Et c'était absolument sublime. Je ne pense pas avoir été plus heureux que pendant l'écriture de ces livres, où j'ai pu vivre par procuration à travers le son, mais aussi de trouver un moyen de mettre en mots cette qualité presque ineffable de la musique.
Maintenant, en vous lisant Richard Powers, on a l'impression que vous écoutez la musique du monde, le son du monde, et que c'est ça qui vous intéresse, essayer de comprendre les énigmes du monde. Autre thème obsessionnel de votre œuvre, et ce depuis des décennies, c'est la famille. La famille disharmonique, la famille violente, la famille qui autrefois fut heureuse et qui n'existe plus, et cette famille... Elle est au centre de votre dernier livre qui paraît ces jours-ci dans la traduction de Serge Chauvin qui s'intitule « Sidération ». Une famille qui avait été heureuse et une famille qui est réduite à un couple. Et ce couple, c'est un fils et son père. Et quand on se souvient de « L'arbre-monde », votre précédent livre, on se dit que le personnage du petit garçon, Adam, il ressemble furieusement au petit garçon qui est dans Sidération. Est-ce que chaque livre introduit un autre? Est-ce que votre imagination entraîne et provoque finalement la création d'autres personnages et d'autres histoires qui continuent comme ça à l'infini, Richard Powers?
C'est une façon vraiment puissante et précise de décrire un aspect de mon processus créatif. Je pense que lorsque je suis plongé dans un livre, il me faut plusieurs années pour l'écrire. Il y a tellement de spéculations. Je ne sais jamais ce que je fais au début, et je dois trouver mon chemin. Et parfois, cela implique d'explorer des avenues qui n'aboutissent pas du tout. Et tout en travaillant dans le milieu, dans l'univers créé, dans n'importe lequel de ces livres, d'autres histoires commencent à germer et elles ne correspondent pas à ce livre. Elles soulèvent de nouvelles questions. Elles vont vers des endroits que le livre en construction ne peut pas atteindre. Et oui, très souvent, le livre suivant sera une sorte d'approfondissement des questions auxquelles le livre précédent n'a pas répondu. Il sera une sorte de variation avec modulation du livre précédent. Je considère que Sidération est issue de l'arbre-monde. C'est presque une pousse ou une branche qui pousse à partir de ce grand arbre. Et pourtant, c'est très différent sur la forme et sur le ton. Il s'agit néanmoins d'une exploration des thèmes soulevés par l'arbre-monde que je n'avais pas exploré lorsque j'écrivais le livre précédent. Et en ce qui concerne l'observation précédente que vous avez faite sur le thème de la famille, qui revient dans tous mes livres, ce n'est peut-être pas inhabituel. La famille est l'un des grands thèmes de la littérature dans de nombreuses cultures. Mais si vous racontez des histoires sur la famille, sur les problèmes au sein de la famille, sur nos tentatives d'improvisation que nous faisons pour créer des familles de choix, des familles choisies, toutes les histoires sur la famille sont aussi des histoires qui posent la question « Où est la maison ? Où pouvons-nous vivre ?» Et ce livre, notamment en explorant cette question familiale entre un père qui a perdu sa femme, un fils qui a perdu sa mère, tous deux prisonniers de leur propre peur, de leur propre lutte pour se comprendre l'un l'autre, ce livre est en fait une question sur la façon dont nous vivons là où nous vivons. Où se trouve le foyer? Pouvons-nous le trouver ici sur Terre? Devons-nous aller dans les galaxies? S'il est ici, sur Terre, comment pouvons-nous le faire nôtre sans causer la destruction massive que nous, les humains, avons infligée en cherchant un foyer au mauvais endroit?
Alors ce livre est bouleversant par bien des égards et pour bien des raisons. D'abord à cause du rythme des chapitres très courts qui s'enchaînent à une grande vitesse, une grâce d'écriture, une caractérisation psychologique de vos deux héros, le fils et le père, et par une thématique obsédante et très importante. Ce petit garçon, il est différent. Les autres, les professeurs, trouvent qu'il est débile, qu'il est vraiment tellement pas comme les autres que c'est pas la peine d'essayer, entre guillemets, de le récupérer. Son père, lui, trouve qu'il a quelque chose en plus. Et ce livre, Sidération, c'est aussi un éloge de la différence.
Et c'est aussi une élégie à la différence à de multiples égards. Robin, qui a perdu sa mère à l'âge de 7 ans, cherche désespérément à la faire vivre dans sa mémoire. Il demande à son père de lui raconter toutes les vieilles histoires de sa mère. Et il veut regarder les vieux films de sa mère sur YouTube. Et lorsqu'il découvre qu'il vit en fait en plein milieu d'une extinction de masse causée par les êtres humains, il en est très peiné. Il souffre profondément d'un écotraumatisme, comme tant d'enfants souffrent aujourd'hui d'un écodrame. C'est un problème personnel pour Robin, car sa mère a œuvré à la protection des animaux et à la protection d'un monde autre qu'humain. Robin, qui vit dans la terreur de perdre sa mère, vit donc une double terreur en voyant disparaître ces créatures que sa mère a essayé de protéger durant sa vie. L'obsession de Robin pour la préservation de la diversité de la vie sur Terre, qui est une façon de s'accrocher à sa mère, est reflétée par le problème de Théo, son père, qui est de savoir comment protéger la différence que représente son fils. Son fils, en tant qu'enfant très spécial, qui n'est en aucun cas comparable au mode de n'importe quelle courbe de distribution que vous pourriez faire des enfants de son âge. Son père s'entend dire, par les médecins, que la meilleure façon de traiter Robin et ses problèmes, ses accès de colère et de rage, est en quelque sorte de le normaliser, de lui donner des médicaments qui le rendront capable de fonctionner dans une école normale, avec des élèves normaux, d'une manière normale. Et Théo s'y oppose également. Il dit non. C'est la différence de Robin qui le rend puissant, qui le rend spécial. Bien sûr, les auditeurs feront immédiatement la comparaison avec l'enfant le plus célèbre et le plus influent du monde, qui quitte en fait maintenant l'enfance pour entrer dans l'âge adulte, Greta Thunberg, qui appelait sa différence, son autisme, son super-pouvoir. Ce livre affirme que ce n'est que grâce à la différence que nous pourrons entrer dans le monde futur de manière saine et intégrée. Le but de l'espérance n'est pas de contrôler, de simplifier, de normaliser, mais de permettre à, et d'autoriser toutes les possibilités de l'humanité dans toutes ses variantes. Et en fait, ce sont les personnes qui se situent en dehors de la norme qui nous aideront à montrer comment l'humanité peut être différente.
Avec vous, Richard Powers, on a le vertige, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ça va devenir vrai. Et à l'intérieur de Sidération, on a de nombreuses fois le vertige, parce que justement, ce petit Robin, pour être, entre guillemets, soigné, il va accepter une proposition de neurofeedback. Il va travailler avec une intelligence artificielle que petit à petit, il va détourner ou conduire, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, vers sa mère. Et vous, en tant qu'écrivain, vous nous faites croire que ce petit garçon va pouvoir retrouver sa mère, l'esprit de sa mère, non pas que sa mère va ressusciter comme un fantôme devant lui, mais l'esprit de sa mère.
So you're asking what is exactly...
En fait, vous vous demandez ce qui se passe exactement
ici. Est-ce
que
c'est possible ? Est-ce que c'est pensable ? Est-ce que...
Well, this technique
eh bien, of decoded cette technique de neurofeedback décodé est en fait basée sur une technologie du monde réel qui est un peu plus d'une décennie. Je l'ai découvert pour la première fois en 2013. Elle n'en est donc encore qu'à ses débuts. Et elle consiste, comme vous le dites, pour une personne à apprendre réellement à modifier sa propre activité cérébrale pour ressembler au modèle d'une autre personne. Il est décrit dans le livre comme une sorte de machine à empathie, un moyen rapide et efficace de donner à une personne une sorte de convergence empathique avec les modèles cérébraux qui ont été enregistrés par une autre personne. Et comme vous l'avez mentionné, Robin est capable de le faire d'une manière très virtuose, peut-être parce que c'est un garçon différent, mais lorsqu'il lui donne le modèle mental du cerveau de sa mère, il est en fait capable d'apprendre rapidement comment mettre son propre cerveau dans cet état mental. L'histoire est racontée par Théo, à la première personne, par le père de Robin, à la première personne, de sorte que Théo ne sait jamais vraiment ce que Robin pense, ressent ou fait. Robin est une sorte de chambre close, mystérieuse pour lui. Et bien sûr, le lecteur est à un autre degré de distance, parce qu'il lit le récit de Théo sur ce qui arrive à Robin. Et le lecteur se dit, « Oh mon Dieu, est-ce que ça peut vraiment arriver ?» Cette technologie va-t-elle lui permettre d'avoir une relation télépathique avec cette femme morte? J'ai écrit ce livre comme une sorte de fiction spéculative douce, soft. Le lecteur y entre comme dans une fiction domestique réaliste, et en se disant « je connais les histoires de père et de fils », et le lecteur accepte cette fiction comme vraie. Mais quand on arrive à cette partie de l'intrigue, il y a cette incertitude absolue. Est-ce que ça pourrait vraiment arriver? Cela pourrait arriver dans 2 ans? Dans 10 ans? Maintenant? Peut-être jamais? Est-ce une invention totalement farfelue que l'auteur a créée pour raconter cette fable? Je voulais que le lecteur soit dans cet état d'incertitude, ne sachant pas ce qui pourrait être réel et ce qui est purement imaginaire, parce que c'est thématiquement très lié à cette idée d'empathie et de participation à un point de vue qui n'est pas le vôtre.
Robin, c'est en quelque sorte une Alice du pays des au pays des merveilles du 21e siècle. Vous êtes le Lewis Carroll du 21e siècle, peut-être, Richard Powers, mais dans votre livre, dernière question, on croise beaucoup d'éléments de la réalité. On croise une très jeune femme qui ressemble étonnamment à Greta Thunberg et qui essaye de dire son angoisse au nom de tous les jeunes. On croise un président américain complètement fou, on citera pas de nom. On croise un pays totalitaire qui s'appelle la Chine. On croise des paysages incendiés aux États-Unis à cause de justement de la dégradation climatique. C'est une fable. Mais c'est une fable qui doit nous alerter, qui doit nous faire réfléchir ou qui doit nous faire agir, Richard Powers.
Just as I wanted to render this technology of decoded neurofeedback.
Tout comme j'ai voulu rendre cette technologie de neurofeedback décodée un peu magique, en rendant le lecteur incertain quant à ce qui pourrait arriver et ce qui est purement imaginaire, je fais une chose semblable avec la géopolitique de ce récit. Ce livre se déroule sur une terre parallèle. Ce n'est pas tout à fait le monde que nous venons de traverser ces dernières années. Le lecteur commence à lire en pensant « Ah, je sais où nous sommes. Nous sommes dans l'Amérique de 2019, juste avant les élections. » Et pourtant, petit à petit, ce monde familier devient étrange. Il diverge. La trajectoire des événements du monde extérieur empiète sur la vie de Théo et Robin. Elle est familière, mais étrange en même temps. Et je l'ai fait dans une large mesure parce que je voulais recréer non pas la réalité journalistique des 2 dernières années que nous avons vécues, mais l'état émotionnel que nous avons tous ressenti chaque jour en nous réveillant le matin, en regardant les gros titres et en nous disant « Où cela va-t-il finir ? Comment cela va-t-il se terminer ?» Il y a eu des moments, j'écris ce livre pendant le confinement, pendant la dernière année de l'administration de Trump. Il y a eu des moments, quand j'écrivais, je ne savais pas quelle histoire allait se terminer en premier, mon roman ou la démocratie en Amérique. Et en créant cette sorte de terre parallèle, en mélangeant le familier avec l'éloignement, je demande au lecteur, je le mets dans ce même sentiment d'incertitude, je demande au lecteur de se souvenir de ce moment où ne savions tout simplement pas où tout cela allait aboutir, où allait cette réaction contre le fait de se reconnecter à la planète Terre, si elle pouvait finalement créer la révolution totalitaire à laquelle elle aspirait. Je voulais produire ce sentiment d'éloignement et d'incertitude parce que je crois que nous sommes toujours dans un moment de grande incertitude. Le monde dans lequel nous vivons actuellement est au cœur d'une guerre civile intense entre ceux qui cherchent un sens et un but dans un passé imaginaire et ceux qui cherchent une nouvelle forme de sens et de but dans un avenir que nous nous efforçons d'atteindre. Ce n'est qu'en emmenant le lecteur hors de sa terre familière, dans cette étrange terre parallèle, que je pouvais avoir une chance de lui permettre de regarder en arrière et de se dire « Ah, c'est là que nous sommes ».
Merci infiniment Richard Powers pour ce livre qui paraît ces jours-ci aux éditions Actes Sud, qui s'intitule « Sidération » avec un S et qui est admirablement traduit par Serge Chauvin et qui est publié aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est avec Vertige de Malik Djoudi que nous nous quittons ce soir. Merci à Michel Zlotowski pour sa traduction simultanée. Merci encore Richard Powers. Je rappelle que votre livre Sidération est publié aux éditions Actes Sud. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Elodie Royer, Céline Villegas, Iris Vertanessian. Et merci à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien évidemment rendez-vous avec qui ? Avec Mishka Assayas pour son Very, Very Good Trip.